souffle fragile, la parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
Je vous invite à prendre place. Retenons bien ce que nous avons entendu jusqu'à présent, parce qu'évidemment un culte c'est tout un ensemble, et dans la première partie de ce culte qui nous a conduit, comme il est bon de faire quand on se présente devant Dieu, c'est la louange, lui dire qu'on est bien avec lui, qu'on est heureux avec lui. Et puis, c'est aussi pouvoir relire sa semaine, sa journée, et entendre à nouveau ce « je t'aime » sur nos vies. Être rassuré, parce qu'un être humain reste, malgré toutes ses forces, fragile. Et il a toujours besoin de réentendre qu'il est toujours le bienvenu chez Dieu, qu'il est toujours le bienvenu dans sa présence et que Dieu ne le reniera jamais. Donc retenons bien ce que nous disions tantôt, entre la parole qui divise les humains, qui récompense d'une manière scolaire les bons et qui punit les mauvais, ça c'est une foi scolaire, et on peut avoir cette foi pendant tout un temps de sa vie, voire même toute sa vie. Cela ne nous fera pas rejeter par Dieu. Mais il y a dans l'Écriture une autre veine. Cette autre veine, c'est de dire, il y a chez toi aussi de l'ivraie, toi qui te crois bon, toi qui te crois en ordre. Vous savez, Jésus n'a pas conservé ses forces. Il a combattu contre le pharisaïsme. Et Jean, l'évangile de Jean, d'une manière particulière, nous parle de ce combat où le Christ et celui qui écrit l'évangile combat l'insuffisance de la religion juive, l'insuffisance du judaïsme. Et donc, il nous faut aussi entendre la parole de Jésus qui nous dit à chacun, prends ton lit et marche, ne reste pas allongé, ne reste pas dans tes paralysies, moi je te donne une parole de délivrance. Vous savez, la délivrance, la libération, c'est le point fondamental, la colonne vertébrale de toute la révélation. Elle commence bien avant Jésus. Elle est dans les premiers livres, dans les premières lignes de l'Ancien Testament. Lorsque, dans la chute elle-même, il dit à Adam et Ève, il lui signale qu'ils vont vivre un divorce entre Dieu et eux, mais que la descendance de la femme écrasera le serpent. On a déjà, dans un moment dramatique, extraordinairement dramatique, on a déjà tout l'évangile. Ne crains pas, même si tu dois connaître le pire, N'aie pas peur, la libération est en marche. Dieu est un Dieu qui libère. Et c'est surtout cela qu'il nous faudra retenir. Alors, venons-en pendant un petit moment à Jean 2. Jean 2, les noces de Cana. Vous savez que derrière chaque miracle des évangiles, il se révèle une image, une facette de Dieu. Dieu est tellement considérable qu'il nous faut beaucoup de temps pour faire le tour, peut-être toute l'éternité certainement, et de découvrir toutes ces multiples facettes. Et déjà à travers les miracles, les paraboles, les paroles de Jésus, il y a le spot qui éclaire tantôt ceci de Dieu, tantôt autre chose. Mais le tout fait un tout, justement. Parfois, notre foi humaine, et c'est parce qu'elle est humaine, elle ne peut pas être plus autre chose qu'humaine, elle s'attarde à une facette et on dit « Dieu, c'est ça !» Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est l'ensemble de ses facettes. Et donc, ici, quelle est la facette qui va éclairer notre foi aujourd'hui? Demain, on en choisira une autre. C'est ça la richesse du texte biblique. Aujourd'hui, je me dis, en lisant cela, voilà un Dieu qui va changer l'indispensable en superflu. L'indispensable, c'est l'eau. Le superflu, c'est le vin. Voilà un Dieu qui va penser à dire stop à l'eau, oui au vin. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver la fête. Et c'est le premier signe de Jésus. On pourrait être déçu. On pourrait être déçu parce qu'on pourrait se dire quand même, comme premier signe, comme premier miracle, et vous savez que quand quelqu'un, un politicien ou quelqu'un qui a de grosses responsabilités, je crois que Jésus en a eu, fait son premier discours et fait son premier signe, il choisit quelque chose qui va marquer son mandat, qui va marquer son œuvre. Et donc, moi, il me semble que j'aurais choisi, par exemple, la multiplication des pains. Parce que nourrir le pain, c'est quand même plus fondamental, quand même. J'aurais choisi, par exemple, Jésus qui marche sur les eaux, qui va repêcher Pierre. Ah oui, voilà, c'est le sauveur. Mais le sauveur d'une fête. Celui qui va mettre, oui, du piment à notre vie. Celui qui va mettre des bulles dans notre eau. Jésus, ou plutôt Jean, va choisir de nous montrer Dieu comme cela. Alors vous savez qu'il y a toujours différents niveaux de lecture d'un signe, d'un miracle, comme d'une parabole, comme d'une parole. Et il y a d'abord un niveau littéral, puis un niveau symbolique et puis un niveau spirituel. Alors ici, dans notre récit, oui, le niveau littéral, ben, il est simple. Il va changer simplement de l'eau en vin. Il va changer, donc je le répète parce que c'est important, l'indispensable eau en vin, c'est du luxe. Tout simplement pour sauver la joie de la noce. Sauver le côté ivresse dont on a besoin dans notre vie. Dieu nous dit en quelque sorte, littéralement, « Je ne veux pas que votre vie soit plate. » Je ne veux pas que votre vie soit triste. Je ne veux pas que votre vie soit dans la résignation. Il y a parfois une image chrétienne qui est une image triste. Je pense que c'est en train de changer, mais pendant tout un temps, c'était un label de qualité, pas être joyeux. Eh bien, Dieu, c'est le contraire. Dieu, il vient, il met des couleurs. On le voit à travers la création, d'ailleurs. Il fait ça bien. Il a du goût. Il n'est pas dans l'amorosité, il n'est pas dans la tristesse. Il est dans le grandiose, il est l'artiste. Il vient donner des couleurs, il vient donner des senteurs, il vient donner de la musique aux choses. Le Dieu que nous trouvons dans l'Ancien Testament est souvent cela. Et Jésus dit, ben voilà, je suis venu vous parler du Père, je suis venu vous recentrer sur le Père, et bien sachez que le Père, c'est ça. C'est celui qui va venir sauver la réputation du marié ou de sa famille. Parce que, surtout à cette époque-là, et en Orient, manquer de vin à une noce, c'est quand même dramatique. Il faut sauver la fête à tout prix. Le deuxième niveau, c'est le niveau symbolique. Alors, il y a énormément de symboles là-dedans. Tout d'abord, il y a le symbole de la noce. La noce, dans toute l'Écriture, et surtout chez les prophètes de l'Ancien Testament, c'est l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Un Dieu fidèle, un Dieu qui coûte que coûte restera dans sa fidélité, quels que soient les coups de canif que son épouse va faire dans le contrat de mariage, en quelque sorte, dans l'alliance. Son épouse, ici, étant le peuple, c'est nous. Quelles que soient nos infidélités, quelles que soient nos manières de nous égarer, Dieu est l'époux fidèle. Dieu est l'époux qui supporte. On le voit à travers Osée, par exemple. On le voit à travers bon nombre. Donc, la noce, ça représente le peuple de Dieu, à cette époque-là, Israël, et Dieu. Et l'alliance, cette alliance-là. Il y a aussi le vin, je n'y reviendrai plus, ou pas tout de suite, l'image du vin qui réjouit, qui est l'image de la fête, qui est l'image de la joie. Et puis, il y a ces fameux jarres au nombre de 6. 6. C'est un chiffre, puisqu'on est dans la lecture symbolique, le chiffre de l'homme, le chiffre de ce qui est imparfait, qui n'est pas complet. On y est presque. On est presque à 7, mais on rate. On rate de peu. 6, on attend le 7e. C'est juste le suivant. 7, qui est le chiffre parfait, le chiffre de Dieu. On est dans des litres et des litres d'eau de purification, nous est-il dit. Et donc, la purification, c'est ce que l'homme a trouvé de meilleur pour le fond de commerce de la religion, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que ça doit toujours être fait. On doit toujours revenir. Les sacrifices dans l'Ancien Testament devaient être faits constamment, tous les jours, il y avait des sacrifices. Et puis, il y avait encore le Yom Kippour, le grand jour des expiations. Il fallait expier, il fallait se purifier. Et c'était ça, le symbole des 6 jarres remplies d'eau. Eh bien, il fallait être pur, mais on n'est jamais pur, donc il fallait toujours y travailler. Et ici, je vous dis que c'était la pensée, effectivement, de Jean, lorsqu'il écrit une des pensées de Jean, un des buts de Jean quand il écrit son évangile, c'est de combattre l'insuffisance de la religion du judaïsme. Et il faudra attendre le XXe siècle pour que l'Église dise « Bon, ne tapons pas trop sur Israël, ne tapons pas trop sur le judaïsme et reconnaissons que nous avons des liens très forts. » Mais ici, c'est un petit peu le combat entre l'Évangile naissant, le ministère de Jésus naissant, le christianisme qui se montre un peu comme l'eau changée en vin, c'est-à-dire ce qui va conduire à ce qui manque. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il manque quelque chose. Il manque cette septième jarre, ce qui va faire passer l'être humain de l'idée toujours de se purifier, à l'idée de communion. Qui était déjà dans l'Ancien Testament, évidemment. Dieu est un Dieu de communion. Ce n'est pas un Dieu qui tape sur l'homme, c'est un Dieu qui se réconcilie avec lui. Mais la religion a un peu oublié cela. Et la religion, c'est plutôt les six jarres. Il manque quelque chose. Jésus vient pour donner cette communion, cette présence de Dieu dans nos vies. Et puis, il y a le niveau spirituel. Le niveau spirituel, c'est en quoi la transformation de l'eau en vin dans cette histoire est-elle nécessaire au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle me dit sur mes propres manques? Qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? Quel est le vin qui me manque dans ma vie? Et là, probablement que nous aurons tous une réponse différente. Qu'est-ce qui nous manque? La vérité, la justice, la sagesse, la foi, la tolérance, l'espérance? Ou la bonté, la bienveillance pour autrui? Ou tout simplement m'accepter moi-même? Il y a beaucoup de choses, et dans la petite image qui symbolisait notre culte, c'est une terre crevassée, c'est une terre assoiffée, et au plus profond de nous, il y a des crevasses. Au plus profond de nous, au plus profond de moi, il y a des manques, il y a des sécheresses, il y a une terre de cœur, une terre au niveau des entrailles qui n'est pas toujours bien alimentée, qui me fait mal. Il y a des choses en nous qui nous font mal peut-être depuis longtemps et puis on les oublie à un moment parce que on a une averse. Il y a de l'eau qui arrive d'une manière ou d'une autre et puis un peu on les oublie. On a alors un moment où on se sent nettement mieux, plus en paix. Et puis, il arrive un petit quelque chose, un petit moment encore d'aridité. On ressent alors toutes ces crevasses-là. Quel est le vin qui me manque? De quoi ai-je besoin? Alors, je terminerai tout simplement par cette image forte qui est importante, je pense, et qui est là pour nous encourager. C'est que qui est conscient de ce qui se passe dans ces noces de Cana? On pourrait presque les compter, peut-être, sur les doigts d'une main ou des deux. Il y a Marie. Il y a le chef du protocole, je vais dire comme cela, de la fête, et quelques serviteurs. Les disciples, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ils sont accablés, hein, ils sont autour des tables. Je ne suis pas sûr qui se rendent compte qu'il manque du vin. Et vous avez ici deux sortes de personnes. Il y en a qui savent, très peu, qu'il manque du vin. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut agir, mais comment on va agir? Marie qui va trouver Jésus, qui lui dit, bon, essaie de faire quelque chose. Donc Jésus est au courant, bien sûr, puisqu'il est le centre. Et puis c'est tout. Tous les autres, ils sont autour des tables, ils continuent à rire, ils continuent à festoyer, ils continuent à parler ensemble, etc. Et c'est quand le vin meilleur arrive qu'ils se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose. Mais comment ça s'est passé? On n'en sait rien. Dans certains miracles de Jésus, on entend Jésus prier. On voit Jésus toucher. On voit Jésus, une action de Jésus. Ici, non. Tout se fait dans le secret. Tout se fait incognito. Il n'y a que quant aux gouttes qu'on dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le meilleur. Il est meilleur. C'est au goût. Et pourtant, le texte se termine par dire que c'est là que Jésus a manifesté sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Quand je lis ça, je m'étonne quand même. Je me dis quand même, moi, en tant qu'homme, la manifestation de la gloire de Dieu, ça doit être quand même plus explosif que ça. Hein. On doit la voir. Si on veut que les êtres humains croient en Dieu, mais il doit se manifester. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans nos prières. Seigneur, manifeste-toi, fais quelque chose. Mais à ce moment-là, on ne pense pas à quelque chose de secret, quelque chose d'incognito, mais quelque chose qui est décisif, qui va faire que c'est irréfutable. Ah, on aimerait un évangile irréfutable, on aimerait un évangile qui met tout le monde à genoux. Et voilà que le premier signe de Jésus, c'est de faire quelque chose secrètement, incognito, et pourtant, c'est là que sa gloire est manifestée. Et c'est là qu'on croit en lui. Ainsi, ici, dans ce texte, l'action de Dieu, et c'est très encourageant, l'action de Dieu, elle se fait en secret, tout doucement, mais c'est son meilleur vin. Et je pense à toutes les fois où nous sommes en visite ou auprès d'un ami, d'un souffrant, dans un hôpital, ou ailleurs, ou dans une famille qui connaît des problèmes, ou devant telle et telle difficulté, devant telle et telle épreuve, il nous manque du vin. Il nous manque vraiment du vin. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on quitte cette famille, on quitte ce moment, et puis on a un petit goût de trop peu. On se dit peut-être j'aurais dû faire ça, comment je vais accompagner? C'est sans compter sur la gloire de Dieu qui, incognito, doucement, sans faire de bruit, va combler, va guérir, va agir, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans la vie des autres. On pense peut-être à tous les temps de témoignages, d'évangélisation que l'on peut faire, de témoignages auprès d'amis et on ne voit rien. Il n'y a rien qui se manifeste. Et pourtant, Dieu incognito vient changer l'eau, la banalité de la vie, le plat de la vie, de son vin. Et c'est là que la gloire de Dieu est manifestée et que la foi commence. Amen.